Les rendez-vous de la rédaction, du lundi au vendredi à 18h sur Jet FM.
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.
Reportages, entretiens, chroniques et débats.
On peut parler pour ne rien dire, mais il est impossible de ne rien dire quand on se tait.
Les rendez-vous de la rédaction, c'est tous les jours de la semaine à 18h sur Jet. Rediffusion le lendemain à 9h.
T'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire?
Vous êtes sur Jet FM et nous vous invitons à écouter une rediffusion de Place Publique, des séances de débat organisées une fois par mois par la ville de Saint-Herblain. Au menu pour cette fois, on remonte loin dans le temps, en septembre 2019, avec pour sujet le numérique et la création artistique. Bonne écoute!
Comment le numérique bouleverse-t-il la création artistique et le rapport du public aux œuvres? C'est ce qu'on va explorer ce soir en compagnie de Philippe Boinard. Bonsoir. Vous êtes artiste programmeur. À vos côtés, Jenny Piquette, artiste plasticienne, sculptrice intermédia, récipiendaire du prix de la ville de Nantes en 2016. Et enfin, pour finir, Anaïs Rollez, bonsoir. Vous êtes historienne de l'art spécialisée sur le numérique et vous enseignez à l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. On va parler de la définition des arts numériques. On va revenir un peu sur l'historique pour se rendre compte que ça n'est pas si récent que ça avec Anaïs Rollez. Et puis, on reviendra sur le parcours de nos invités qui les a amenés à basculer sur ce champ, à s'approprier les outils et sur les raisons qui les ont poussés à faire ces choix, autrement dit sur les possibles ouverts par les outils numériques. Et sur la manière dont ils peuvent être détournés aussi pour questionner les grands enjeux de société. Voilà, une dernière précision, le thème de cette soirée et de cette rencontre est aussi en écho à la Nantes Digital Week. Et la rencontre de ce soir est organisée en partenariat avec APO33 qui travaille sur la création sonore et la Maison de la Poésie. Je vous propose de démarrer tout de suite en vous demandant de définir un peu les arts numériques. Quelle définition est-ce que vous en faites? Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Anaïs?
Merci, bonsoir et puis merci pour l'invitation surtout. Alors c'est assez compliqué évidemment cette question. Bon, déjà définir ce qu'est l'art, on n'a toujours pas résolu le problème. Et tant mieux parce que ça nous oblige à continuer à en faire. Et en vivre. Et bon, alors numérique, c'est un peu plus simple à définir parce que c'est quand même ce qui se présente sous forme de nombres, en fait, de chiffres. Donc on ne parle pas à proprement parler, quand on parle numérique, d'ordinateur. Or, je crois que votre question concerne plutôt la production d'art par ordinateur ou assistée par ordinateur.
Alors, par machine, au sens plus large.
Alors non, parce que la machine, ce n'est pas une machine algorithmique au sens propre du terme. C'est-à-dire que la machine, si on prend une définition de ce qu'est une machine, c'est l'institution d'automatismes artificiels. Voilà. Donc ce n'est pas forcément la computation, ce n'est pas forcément des algorithmes. Donc on n'est pas dans, on n'est pas dans l'ordinateur forcément. Une machine, c'est une machine algorithmique, c'est, oui, ok, ça fonctionne.
Est-ce que vous pouvez peut-être redéfinir pour le coup l'algorithme?
Alors je m'attendais à la question. Voilà, donc algorithme, ça vient d'un mathématicien perse du 9e siècle qui s'appelait Monsieur Al-Khwarizmi. Donc si on regarde la définition sur le CNTRL, moi c'est ce que j'ai fait sur Internet, c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Donc on se doute bien que le 9e siècle, ça ne concerne pas vraiment les ordinateurs. En l'occurrence, il y a beaucoup en effet d'artistes qui ont travaillé à partir de programmation purement basée sur des mathématiques, bien avant qu'il y ait des ordinateurs. Donc les ordinateurs, ça s'appelait pas des ordinateurs au départ, et puis c'est un peu difficile de situer un départ, mais c'est comme toutes les technologies en fait, hein, ça s'est amélioré. Mais bon, bref, on a quand même des grandes dates. Je pense le Colossus en Grande-Bretagne. Voilà, donc on est vraiment dans les années 50, l'ENIAC aux États-Unis. Mais les grandes expositions à proprement parler d'art faites assistées par ordinateur, ça date des années 60.
Avec la démocratisation des outils, leur essor en tout cas, démocratisation relative encore à l'époque, en tout cas dans les milieux d'ingénieurs, dans les usages professionnels. Et les premiers qui ont travaillé le numérique, ce sont justement les ingénieurs? Oui, d'un point de vue créatif.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, on oublie un peu que de toute façon, les ingénieurs ont aussi des yeux et des sens, hein, donc ils ont bien besoin quand même d'avoir des interfaces aussi en face d'eux, et que tout est dessiné par quelqu'un. Enfin, il y a des formes, hein, quand même, des matières qui sont choisies, etc. Ce sont pas des artistes à proprement parler, mais ils font des choix esthétiques quand même. C'est vrai qu'au départ, l'ordinateur n'est pas couplé à un écran, par exemple. Il n'y a pas de périphérique comme on les connaît maintenant. Ça a été développé notamment par Evan Sutherland, enfin, je pense au Sketchpad, qui est une des premières interfaces graphiques. Donc là, on est au MIT. Hein.
Donc le Massachusetts Institute of Technology.
On est chez Bell Laboratories, pardon, mais il y a aussi des gens qui vont développer ça au MIT. Après, les premiers programmes pour s'entraîner au vol, les simulateurs de vol, etc. Donc voilà, c'est Boeing. Enfin, mais ces gens-là, de toute façon, avaient besoin aussi de ces sorties graphiques, de pouvoir manipuler les programmes, les faire manipuler aussi par d'autres. Par contre, voilà, la démocratisation des outils, c'est une chose. Et puis, il y a aussi le fait que le MIT, par exemple, ait ouvert ses portes d'université à des gens qui étaient plus dans la création. On va dire que si un artiste, c'est quelqu'un qui questionne le sens, ou qui met en crise aussi, qui pose des questions, qui décale un peu les choses, oui, à ce moment-là, on peut dire que les artistes n'ont pas forcément non plus attendu la démocratisation.
Ce qui veut dire que là, en tout cas, pour vous, par rapport aux échanges de ce soir, quand on dit numérique et création artistique, vous restez sur cette définition première du numérique qui ne se restreint pas à l'ordinateur, à l'algorithme.
Oui, surtout qu'aujourd'hui, les pratiques numériques ne sont plus forcément liées à un ordinateur. Il y a beaucoup de... on parlait, mais...
Des capteurs, par exemple.
On est dans un monde de flux continu, discontinu pour le coup. On les traverse en permanence, on peut agir dessus sans le savoir. Donc le rapport à l'ordinateur et ses interfaces n'est pas forcément prédominant aujourd'hui.
Merci. Jenny, pour vous, est-ce que vous qualifiez les outils que vous utilisez de numériques? Est-ce que vous avez une définition des arts numériques?
Donc, pour moi, la définition générale pour les artistes numériques, c'est les artistes qui fabriquent, qui produisent ces œuvres à partir de les outils ou à partir de les outils qu'ils créent par le numérique. Mais aussi, de détourner les outils numériques, d'ouvrir, de jouer avec, de trouver de différentes façons à utiliser qui n'étaient peut-être pas prévues par les créateurs. De mise en question ces nouveaux outils.
Merci, et puis on va le voir, vous travaillez beaucoup sur le son, donc là on dépasse un peu l'image qu'on peut avoir de prime abord quand on évoque les arts numériques, justement, qui est très relié à l'ordinateur. Vous allez nous parler après de votre travail qui justement explore d'autres champs. Philippe Boinard, de votre côté, vous êtes artiste numérique?
Non, je dis artiste programmeur.
Programmeur, c'est comme ça que vous définissez.
Programmeur, bon, je pense qu'on puisse, vu comment ça a été décrié, cette appellation artiste numérique ou artiste digital, on voit, je parle d'un point de vue historique, si on prend d'un point de vue historique, on est arrivé quand même sur le tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le numérique est partout, de toute façon. Si on parle du numérique, après, la question, quand je pose la question de artiste programmeur, c'est-à-dire. À partir de programmes donc, qui sont constitués, sculptés, ou simplement qu'on invente. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas de définir, d'un point de vue général, ce que peuvent être les artistes numériques. C'est comme un peintre.
C'est vous, en tout cas.
Un peintre moderne, un peintre contemporain ou un impressionniste, bien évidemment, ne travaillent pas de la même façon, ne sont pas au même endroit, ne font pas de la même façon leurs pigments, etc. Donc, c'est vrai que c'est des termes génériques qui ne veulent rien dire, comme les avant-gardes, etc. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans la pratique, c'est une pratique d'écriture du code. Et de tout ce que peut être un interfaçage faisant fonctionner du code, qui la plupart du temps donc algorithmique. Et donc j'ai tendance à restreindre vraiment ce champ qui m'intéresse aux gens qui s'intéressent au code, comment le code effectivement intervient sur notre société. Donc moi je travaille beaucoup sur le langage, le problème de la réflexion sur les réseaux sociaux, sur ce que nous avons en commun ou pas, suite effectivement à l'évolution technologique de nos rapports, on va dire, sociaux, économiques, culturels. Donc voilà, c'est cet intérêt pour le code, le générer, l'utiliser, le détourner, le comprendre. Voilà. Et donc moi, je tends à penser que beaucoup de gens qui sont des, ce que j'appelle des utilisateurs de choses qui existent déjà. Alors c'est très beau, ça donne des blocs blancs sur des façades, ça donne des belles images, etc. C'est voilà, c'est des choses en fait très anecdotiques. Et je pense que on est dans une époque de plus en plus anecdotique de toute façon sur ce que nous voyons. D'ailleurs, on s'intéresse plus beaucoup, on utilise, on veut des nouvelles fonctions, etc. On s'intéresse plus beaucoup vraiment sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur parce que effectivement, c'est plus quelque chose qui d'un coup fait une brèche dans notre monde, hein, ce qui a été Internet à un moment donné. Je pense que, en tout cas pour ma génération, où on a vécu adulte pratiquement jusqu'à l'âge de 30 ans sans Internet, quand on le voit apparaître en 96-97, d'un coup, on se dit, ouais, voilà. Et pourtant, on connaissait Minitel. Mais il y a des choses qui apparaissent. Et je crois que voilà, on est maintenant sur ça. Donc voilà, moi, je me situe vraiment dans plutôt les bricoleurs, les artisans de la technique. D'ailleurs, artisan programmeur, c'est pas mal.
Artisan programmeur, ce qui veut dire qu'on va revenir dessus, mais que vous êtes aussi technicien, bidouilleur, et que pour vous, ça fait partie intégrante de la pratique.
Tout à fait. Je pense que... Alors bon, pareil, ça paraît toujours assez dur de dire l'usage d'une technologie à l'heure où on est. J'entendais ce matin, c'était des murgers... sur son dernier bouquin sur les écrans et les enfants, les questions qu'on se pose, on est en train de façonner plein de méta-utilisateurs, c'est-à-dire plein de gens qui n'ont de rapport à l'existence que par l'utilisation de technologies qu'ils ne connaissent pas, que ce soit les hardware, c'est-à-dire la matérialité, ou que ce soit les software, c'est-à-dire les logiciels qui ont des principes ergonomiques pour l'usage, effectivement, on va dire, de ces interfaces. Il est évident qu'on est en train d'abrutir complètement le monde et de faire des gens vraiment impotents sur beaucoup de choses, hein, la géolocalisation, sur l'usage du choix, etc. Donc oui, rentrer dans le code, le comprendre, être vraiment à l'écoute de ça, voilà. Bon, je pense que
pour mieux le critiquer.
Oui, c'est une critique nécessaire.
On va le voir. Pour moi, ça a été une des surprises en préparant cette table ronde. Beaucoup d'œuvres numériques, pour être qualifiées peut-être pas de technophobes, mais en tout cas viennent questionner cet impact du numérique sur la société. Anaïs Rollès, vous, quand vous travaillez sur l'histoire des œuvres numériques, vous les classifiez en fonction comme ça des usages de ceux qui utilisent le programme, la machine? Est-ce qu'il y a des grandes familles, des grandes typologies de pratiques artistiques numériques?
Non. non, j'essaie de ne pas le faire. L'histoire de l'art, ça demande un recul quand même, que évidemment qu'on n'a pas aujourd'hui sur les outils numériques et sur la pratique artistique. Donc, si vous voulez, moi je fais une histoire de l'art qui est l'histoire de ce que les artistes font de l'art. Voilà, donc c'est compliqué de faire des grandes catégories. C'est vrai qu'on est tenté de le faire pour pouvoir communiquer et que ce soit intelligible, bien sûr. Mais je crois que la plupart du temps, je suis quand même face à des étudiants qui sont des étudiants en art. Et pour lesquels c'est pas très sain finalement d'arriver avec des idées un peu préconçues comme ça. Donc je fais pas ces grandes classifications, mais on pourrait les faire. Et je pense que si vous prenez n'importe quel bouquin qui s'appelle Art numérique, vous allez en trouver.
Oui, avec plein de jolis noms, réalité augmentée, réalité virtuelle, justement. On est sur le living art, l'art interactif. Enfin voilà, on aurait pu. Rentrer là-dedans, mais on a bien compris que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. On va revenir sur vos pratiques à vous. Avant, Anaïs, est-ce que vous souhaitiez, vous aviez, je crois, pris quelques images sur des œuvres un peu historiques du numérique. Est-ce que vous souhaitez nous en montrer quelques-unes pour revenir quand même sur...
Justement, en parlant d'images, parce que souvent, quand on parle de l'image, on a l'impression que c'est clair pour tout le monde. En fait, comme si tout le monde avait un rapport très visuel à la chose. Mais en fait, quand on lit un livre, il y a des images, il n'y a aucun souci. Et juste dans la question de numérique, alors je vous mets l'image que j'avais choisie. Voilà, donc ça, c'est un travail qui s'appelle Ordinateur scellé. Je vous redonne la date, parce que c'est Maurizio Bolognini, mais c'est 1992, donc ça, c'est ancien, finalement. Mais c'est un travail que j'aime bien, parce qu'en fait, ce sont des ordinateurs, vous voyez, qui sont connectés les uns aux autres, donc qui sont scellés. Et en fait, ils génèrent des images, et puis ils se les envoient, quoi. Voilà. Et sauf que vous, quand vous êtes dans l'expo, vous voyez pas les images. Mais parce qu'en fait, là, si vous voulez, l'ordinateur, que ce soit de l'image ou du son, voilà, les industriels ont voulu nous faire croire que c'était multimédia, mais pas du tout. C'est un seul média, hein, un ordinateur. Il y a qu'un, voilà, qu'un langage. Et en fait, c'est pour dire que la question du programme, hein, de toute façon, elle est inhérente à toute création artistique. En fait, hein, quand vous faites, je sais pas, moi, donc un ballet, mais ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être n'importe quoi, un poème. Enfin, donc à partir du moment où là, voilà, on a considéré que sur le plateau, vous aviez abscisse, ordonnée, voilà, enfin, et aussi la profondeur, bien sûr, la hauteur. Mais bon, bref, donc vous transformez tout ça en coordonnées, donc vous faites une numérisation, en fait, hein, tout simplement. Et après, il y a plusieurs possibilités. Donc les personnages, enfin les danseurs, en l'occurrence ici de synthèse, peuvent être à une certaine position et faire tel ou tel mouvement, voilà. C'est du programme. Enfin, je trouve génial. La vidéo est pas mal. Moi, j'ai pas amené les vidéos, mais regardez sur internet, vous allez trouver. C'est assez complètement pathétique, en fait, quand on fait l'expérience d'un vrai ballet de danse ou quand on a un corps, en fait, tout simplement, quoi. Voilà, c'est une pionnière, hein, vraiment, Vera Molnar, de l'utilisation aussi de la possibilité d'épuisement d'opérations, en fait, mathématiques. Donc voilà, l'informatique, ça permet ça aussi, hein, c'est que nous, on se fatiguerait à faire tous les décalages possibles sur des milliers de feuilles, et l'ordinateur, ça permet ça. Donc voilà, c'est tout, je m'arrête.
Donc là, par exemple, sur cette œuvre, la machine décale une forme géométrique selon des variables programmées.
Oui, voilà, on lui donne une instruction et puis après, elle va faire toutes les possibilités. Et elle va sortir. Voilà, toutes ces possibilités, elles vont exister, en fait, du coup, sous forme de dessin. Alors, au début, Vera Molnar, c'est pas, elle ne travaillait pas avec, enfin, une tablette traçante, en fait. Hein, donc, il y avait, encore une fois, ses coordonnées. Donc, la numérisation, elle passe par un geste aussi très physique, hein, finalement.
De mesurer l'espace. On est beaucoup sur la spatialisation.
Bah, en fait, ce n'est pas juste le mesurer, c'est le transposer après en chiffres.
C'est là qu'on passe à la programmation aussi.
Voilà, et c'est là qu'on dit, par exemple, les gens ne sont pas simplement des mensurations ou des hauteurs ou des poids. Ils sont...
On va continuer à illustrer justement ces arts numériques en passant à vos pratiques. Et d'abord à votre parcours. Jenny, vous venez des Beaux-Arts. Plus classique. Quelle était votre pratique avant d'arriver au numérique et comment s'est fait le basculement ?
En fait, j'avais fait le Beaux-Arts à Cornouaille, à Fairmont College of Arts. C'était j'étais diplômée en dessin. Mais mes dessins étaient aussi des dessins que j'essaie d'avoir une interactivité déjà et qui étaient sur les sujets psychologiques et scientifiques des fois. Et donc, après être diplômée, j'avais fait une résidence hors sciences. Et c'était à ce moment-là, j'étais contactée par Luciana Parisi, qui avait démarré un cours à Goldsmiths, qui s'appelle Interactive Media, ou je traduis, Media Interactif, Théorie Critique et Pratique. Et ce qu'elle a chercher, c'est des artistes pour venir sur cette cour avec les gens qui viennent de programmation, mais aussi de théorie culturelle. Et c'est à ce moment-là que je trouvais que la démarche était intéressante et je me nouais dans le monde de théorie culturelle et des logiciels informatiques.
Et c'est à ce moment-là que vous avez appris à manipuler l'image, les dessins. Qu'est-ce que vous avez appris ?
En fait, j'ai commencé à apprendre la programmation avec des outils qui étaient faits pour l'interactivité. Donc, c'était à l'époque Flash, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, MaxMSP et après Pure Data, parce que j'avais appris aussi pendant cette année l'existence de free, libre, open source software, qui était une éthique de pensée sur le logiciel. Si on ne peut pas ouvrir les choses, on ne peut pas être propriétaire dessus, ou on ne peut pas changer les esthétiques. Donc les esthétiques étaient assez liées avec notre façon d'avoir accès direct à le code de le logiciel qu'on utilise.
Oui, parce que pour pouvoir programmer vous-même, bidouiller, il faut avoir accès à ces codes, donc il faut utiliser des...
Oui. C'est des outils libres. Sinon, un coincé dans une vision de l'esthétique qui était fabriquée par le propriété du logiciel. Donc, on voit ça souvent quand il y a un nouvel filtre sur Photoshop. On voit partout dans la publicité, on peut voir que c'est quelque chose qui est sorti récemment, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui a été fabriqué par les artistes eux-mêmes.
Donc pour pouvoir s'approprier, personnaliser, il fallait aussi découvrir cette communauté du libre qui a sa propre culture, très
oui.
très forte.
Exactement, oui. Et c'est pendant cette année, j'ai commencé aussi de collaborer avec des autres artistes. Le premier artiste que j'ai collaboré avec s'appelle Sunshine Frere. C'était une artiste canadienne et on a commencé un projet qui était influencé beaucoup par A Hacker's Manifesto par Mackenzie Walker de 2004. Et là, on essaie d'approprier ces idées avec les objets consuméristes électroniques chinois que, à ce moment-là, en 2006-2007, on a trouvé beaucoup de choses autour de nous à Peckham.
Donc déjà, aussi, la critique, quelque part, des dérives du numérique dès vos premières créations.
Oui, tout à fait. C'était une idée de ouvrir ces recomposer des nouveaux objets avec un peu comme des chimères ou des corps exquisites. C'est la façon de faire. Mais après, de créer une existence de chacun virtuelle. Et donc, on a aussi lancé dans le média social de MySpace, qui n'existe plus, toutes ces données. Depuis 2 ans, je pense, ils ont perdu toutes les données de MySpace.
Donc, les œuvres que vous avez créées ont disparu en même temps.
Oui, exactement. Donc, il y a une précarité avec la propriété de ces plateformes.
Et si c'est le mode de diffusion et de conservation, il est soumis oui. à l'existence de ces plateformes. C'était il y a 10 ans
12 ans.
12 ans que vous avez commencé à travailler sur le numérique. Aujourd'hui, c'est toujours central dans votre travail.
Le numérique, c'est, oui. Oui, c'est souvent quelque chose que j'ai utilisé dans mon travail. Et ça dépend, j'ai de différents types de travail, mais c'est souvent que j'ai bidoué avec des différents logiciels où j'ai aussi collaboré avec des autres artistes pour...
Est-ce que vous voulez, vous avez pris, je crois, aussi, en tout cas des liens ou des extraits de votre travail à nous montrer pour qu'on puisse incarner un peu, visualiser ce dont vous nous parlez.
Donc là, c'était le projet que je parlais à tout à l'heure, c'était un de les premiers. Ça donnait un petit idée parce que c'est archivé par Wayback Machine. Ils avaient pris des images de le site web qui avait existé avant. j'ai vu l'artiste Michel Weisnitz qui était un artiste intermédiaire aussi. Qui ses œuvres datent depuis les fins des années 60. Jusqu'au plus récemment. Et il était très connu pour des interfaces interactives pour la musique. Une pièce s'appelle Hands, The Hands. Et cet artiste, il avait travaillé à Stime à Amsterdam, qui était hyper actif sur l'invention de les instrumentations. Et il dit If you can't open it, you don't own it.
Donc on est toujours sur cette question des outils, des logiciels libres.
Oui, mais aussi ça peut avoir un impact sur tout ce que vous faites dans la vie.
Donc, d'accord, ça fait partie oui, d'une vision plus large
oui.
De la société, du bien public, de la propriété privée.
Oui, exactement.
Et de la liberté de créer.
Et d'avoir accès à les choses dessus le capot. Ça nous permet aussi d'être plus créatifs, mais aussi moins dépendants sur ce qu'on fait dans la vie.
Sachant qu'aujourd'hui, la société, nous sommes individuellement complètement dépendants du numérique. Merci, on va revenir sur ce que vous créez aujourd'hui, mais on va d'abord interroger Philippe Boinard aussi. De la même manière, vous n'avez pas commencé votre pratique artistique en tant qu'artiste programmeur. Vous étiez avant tout écrivain, vidéaste.
Voilà, moi j'étais sur la philosophie hein, à l'origine, donc je viens de la philosophie, donc de la pensée hein, tout simplement, hein, des études à la Sorbonne. Donc oui, moi je pars vraiment de l'écriture, cette question de l'écriture qui se posait et qui s'est de plus en plus posée, effectivement, un, sur la question de la communication, de notre rapport au monde, ça c'était les questions de philosophie, et deux, sur ce qu'était la plasticité oui, et l'immobilité du texte sur la page, découvrant la poésie espacialiste.
C'est quoi la poésie espacialiste ?
Alors là, il faudrait aller voir hein, Garnier, Pierre Garnier, des gens comme ça, ou la poésie visive italienne, c'est-à-dire d'un coup, c'est l'exploration de la page comme, comme un nouvel espace pour mettre les mots, etc. Ce qui vient d'une tradition, tout simplement, les mots en liberté, chez Marinetti, chez les futuristes. Donc il y a eu toute une réflexion sur la page. Mais les mots restaient quand même fixes, d'où le passage à la vidéo. Donc moi je suis passé à la vidéo vers 97-98 à partir d'After Effects, donc les premières versions d'After Effects sur ce qu'on pouvait faire fonctionner hein, avec
le logiciel de montage
de Adobe, voilà, de compositing. Attention, c'est première, le logiciel de montage. Et donc, pour animer des mots. Voilà, c'était animer des mots avec bien sûr cette restriction, c'est-à-dire que oui, on a la surprise du mouvement. Mais de l'autre côté, on a la répétition de quelque chose qui s'appelle une timeline, une ligne temporelle qui va se répéter quand elle est en boucle, exposée, etc. Et je sais qu'à l'époque, ça, je crois que c'est la première fois où j'ai croisé Julien Ottavi au bunker DY10, où c'était Julien Rabu, des gens comme ça, Basile, Ferrieux, tout ça, qui organisaient des soirées. Et il y avait Apo 33 qui était dans le coin déjà, mais on se fréquentait pas. Donc là, on est vraiment en 2000. Je rencontre des poètes numériques, hein, des gens comme Philippe Boutz, Jacques Donghi. En 2002, je crois que voilà, j'organise le premier truc sur la poésie numérique. Moi, j'en fais pas, hein, je suis toujours dans la vidéo. Hein. Le grand tournant qui s'est produit, ça a été sur un appel à projet pour le festival e-poetry, qui est une espèce de label international de festival sur la poésie électronique ou la poésie informatique. Et j'ai vendu quelque chose que je ne savais pas faire. Vraiment, moi, c'est mon leitmotiv, ce que je dis à mes étudiants, ce que je dis à tout le monde. On part sur déjà ce qu'on ne sait pas faire, c'est très intéressant. Et à l'époque, j'étais en duo avec quelqu'un qui s'appelle Hortense Gauthier. Et voilà, je pars là-dessus. Et puis, un metteur en scène qui montait un de mes textes à Strasbourg, il me dit « Ouais, ça serait pas mal que tu te mettes à Pure Data ». Donc, c'est un langage graphique.
Et pour faire quoi ?
Alors, pour faire bouger des mots. Et avec des interacteurs. Je me dis, comment on fait bouger des mots avec des interacteurs ? Alors, à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Henry, des gens comme ça. Et donc, avec des interacteurs qu'il fabriquait, il y a après Interface Z. Et donc, le but, c'était, ouais, voilà, c'était d'arriver à bouger ces mots. C'est pour ça que la plupart du temps, j'ai travaillé quand même éminemment sur le problème du lettrage en spectacle vivant, en performance, en installation. Voilà,
c'est-à-dire que vous vous êtes approprié ces outils, vous avez appris ouais. petit à petit ouais. à programmer en fait, pour développer, mais vous avez ensuite relié dans votre pratique à de la performance, à de l'installation. Vous n'êtes ouais. pas resté dans des œuvres virtuelles qui se regardent uniquement sur un écran
non.
ou
alors, ça, moi, ça m'intéresse à pas distance. Du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Le web ne m'intéressait pas comme cadastre, puisque le livre, je voulais m'en... Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la métaphore incarnée littéraire. Quand je reparlais de photomaton ou des œuvres comme ça, je me disais mais il y a cette phrase littéraire me hante. Ça se lit sur ton visage, je le lis dans tes yeux, c'est marqué sur ton front. Et je me disais mais comment ça en fait je peux le créer à un moment donné. Et comment ça va peut-être enclencher une réflexion. Autre exemple, c'est un spectacle qui a été inventé par Noémie Fargier, qui est une écrivaine de théâtre. Et donc là vous la voyez dans une boîte, Maud Bretenou. Et Urbain Sensible, ça s'appelle, et là c'est vraiment au cœur, c'est-à-dire par rapport à son projet, Noémie Fargier disait qu'est-ce que c'est entendre le monde, la sensibilité, donc un projet très écologiste, hein. les micro-bruits, etc. Donc,
basé sur... elle a capté
voilà,
des sons.
Ouais, sur field recording, elle a passé énormément de temps, voilà, et on les entend pas, puisque la problématique c'est que nous sommes dans un monde urbain. Et donc moi, ce que j'ai introduit, c'est Maud et le bloc de plexiglas où elle étouffe. Hein, c'est-à-dire que ça dure une heure et c'est une vraie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle est en nage et ça ruisselle à la fin. Et tout le public, par exemple vous, on vous donne un QR code ou le lien internet au début du spectacle. Vous pouvez bombarder de messages. Voilà, à longueur de temps, qui glisse sur cette boîte. Et donc, c'est le rapport de la frontière intérieure-extérieure. avec quelque chose qui est ce que j'appelle un piège à con pour le public. Je suis désolé de dire, c'est pas vous qui écrivez, c'était le public. C'est que c'est ce qui est incroyable, c'est que les gens, quand vous leur dites tiens, tu vas être interactif, tu peux envoyer un message, ils ne pensent qu'à une chose, voir leur message. Il y a une espèce de neutralisation pas mal de nos œuvres par les principes d'interactivité et de participation. Donc, nous, on l'a mis en pratique. C'est-à-dire, comme les gens ne pensent avoir que leur message, ils sont dans un égo trip, eh bien, on est sur le problème de l'enfermement et de l'étouffement de quelqu'un par rapport à un monde où les gens n'envoient que des messages. Comme il y a plein de messages, il y a un principe de saturation. Donc, voilà le type de travail qui m'intéresse, c'est-à-dire vraiment en dehors de ce que j'appelle des écrans, donc beaucoup plus ce type de mapping. Donc là, c'est sur un grand écran et cette boîte de plexiglas. Voilà. Et quand je suis sur le net, c'est plus comme réflexion sur les réseaux sociaux. Je fais cette fiction que l'humanité pourrait mourir et qu'on irait chercher des statistiques sur Google de ce que sont les entrées journalières que nous avons. Et donc ça va chercher sur Google Images, sur Flickr, sur un certain nombre de réseaux sociaux, des images. Et quel est le visage que nous avons de cette humanité? Qu'est-ce qui ressortirait, en fin de compte, si nous mourons tous là maintenant, si les extraterrestres arrivent dans 50 ans, ou si une nouvelle humanité arrivait dans 10 000 ans et pouvait avoir accès à ces serveurs, quelle est l'image de l'humanité que nous allons laisser comme trace? Vous voyez, le monde grec ou le monde égyptien, ils ont laissé quand même des trucs un peu balèzes. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, ça prend de la place, c'est pérenne, et c'est quand même assez sublime. Moi, je me pose la question, nous, qu'est-ce que nous allons laisser comme type d'image? Je ne suis pas même convaincu que l'art arrive à laisser des procédures d'image vraiment satisfaisantes. Chef of Memory, réfléchissez là-dessus, donc en interrogeant les statistiques de Google et les banques d'images mises à disposition dans les réseaux sociaux. Et donc, bien sûr, en passant par des principes de hacking, puisqu'il faut les aspirer à longueur de temps, à partir de statistiques qui sortent et de mots-clés qui sortent. Voilà.
Vous êtes devenu un peu hacker vous-même?
Par rapport à beaucoup d'autres, vraiment très, 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 très mince.
Cette œuvre, elle se regarde sur un écran? Elle, justement, dans quel cadre elle est diffusée?
Le meilleur cadre, c'est on l'avait eu pour le Festival Gamer, c'était en 2015. On l'avait fait en 3D immersive, c'est-à-dire mettre les gens au cœur de cette mémoire, c'est-à-dire qu'ils venaient y participer. Il y avait un côté Tron, foutre les gens dans les ordinateurs, ça nous intéressait. Et donc, ils avaient des lunettes interactives, ils pouvaient manipuler avec leur smartphone ou des tablettes, la totalité, c'est-à-dire toutes les formes sont manipulables et on peut les interroger, c'est-à-dire cliquer sur les mots et ça change les images à longueur de temps. Et donc voilà, c'était un dispositif fait à peu près pour 100 personnes à la Fondation Vasarely. C'est des octogones et donc ça prenait quand même 270 degrés dans l'octogone. Donc c'était assez hallucinant. Ça, c'était la chose qui nous intéressait.
Là, pour le coup, les mots étaient sortis de la page.
Ouais, complètement.
Sortie du web. Alors là, on retrouve donc cette question du rapport au mot, mais aussi ce questionnement sur l'usage des technologies et le détournement et le fait d'utiliser les interactions du public pour le montrer, le rendre visible. Est-ce que justement le public, vous avez eu des échos pour voir s'il percevait en fait ce détournement que vous faisiez à partir de ses propres réactions?
C'est ce que je disais tout à l'heure quand je présentais.
Finalement, vous êtes aussi dans quelque chose, dans un message un peu de d'éveil.
Ouais, d'éveil. Je sais pas si on éveille, le dormeur doit se réveiller, disait Frank Herbert. Mais la chose, quand je le disais durement, c'est-à-dire qu'on a des attitudes du public. Par exemple, mon œuvre Automaton qui a été exposée au LU pour Midi Minuposie il y a quelques années. C'est dingue à dire, mais il y a le processus ludique que j'aime. Et les gens, ils aiment. Ah, c'est génial, on peut faire sur notre portrait. On écrit des mots, des phrases, et ça fait notre portrait. C'est génial, ça va sur le web.
En fait, ça scanne le visage à partir des mots rentrés.
Redessine le visage et on prend la photo et ça va faire une communauté. À part que tout ce qui est impliqué comme ludicité, comme jouissivité par l'individu, c'est ce que je mets en critique dans l'espace numérique du web, de communauté, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de chronologie et que quand on a 800 ou 1000 ou 1200, il va falloir chercher sur 1200 visages son visage, casser l'ego trip pour qu'on rencontre d'autres visages, c'est être surpris par ça. Moi, je suis pas convaincu que les gens comprennent ça forcément. Moi, on m'a demandé sur des expos de mettre des imprimantes pour que ça sorte, que les gens aient leurs photos. Je comprends parfaitement qu'on me demande ça. Et j'ai réussi à faire en sorte, à chaque fois, qu'il n'y ait jamais d'imprimante. et qu'il n'y ait jamais d'ordre chronologique. Voilà, parce que c'est l'usage du selfie, et j'ai écrit un bouquin suite à ça, qui s'appelle « Frontières du visage ». Il y a la surconsommation avide de ce que j'appelle l'évanescence du visage, et je ne suis que parce que je m'affiche dans l'évanescence de ma propre disparition. C'est-à-dire que c'est plus du tout le quart d'heure de gloire de Warhol, hein, le quart d'heure de Edouard que je garderai pour ma vie. Je n'existe que parce que je suis relancé, effectivement, comme vide, image vide de moi-même. Et voilà, moi c'est ce qui me hante dans le langage avec Twitter. Le visage me hante, effectivement. Nos relations humaines me hantent de plus en plus. Et on est rentré dans ce consumérisme, effectivement, de la vanité vide. Et voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de questionner dans la plupart de mes œuvres, effectivement, ce comportement très symptomatique. C'est pas simplement un changement d'usage du langage, des images, c'est un changement anthropologique. Nous avons, et ce matin j'entendais donc sur l'émission de France Inter un neurobiologiste, il disait c'est une transformation réelle de l'être humain, de sa façon de voir du langage, d'entendre du langage, d'avoir un rapport à l'autre qui explose par la violence, etc. Et qui est lié effectivement à des usages symptomatiques que nous avons dès le plus jeune âge à nos écrans. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, en tout cas dans mon travail.
Merci. On va voir si Jenny, vous êtes aussi, on l'a compris avec l'œuvre que vous nous avez montrée tout à l'heure où vous utilisiez des déchets pour oui. construire des sculptures, vous questionnez aussi cet impact du numérique. Aujourd'hui, vous travaillez sur des thèmes qui font écho à ceux de Philippe Boinard. Vous soulevez quel sujet et avec quels outils ?
J'ai souvent une démarche qui commence avec le cours, avec comment on expérience le monde.
Vous travaillez avec des capteurs et des œuvres qui se composent sous forme
oui,
de...
Oui, mais aussi avec le son, beaucoup avec le son et la spatialisation de ces sons et l'immersion sonore.
Donc là, c'est vraiment, en tout cas, là, les outils, ces outils numériques, techniques, vous servent à faire expérimenter d'un point de vue sensoriel oui. le spectateur sur des questions, des sensibilités qui vous soulèvent. Vous avez un regard aussi noir, aussi sombre que celui de Philippe Boinard sur l'évolution, on va dire, de la société induite notamment portée par les technologies.
Oui, une autre pièce que j'ai fait, celui-là, c'était une pièce plus récente que je fais avec Julien Savé, qui s'appelle Mother Plant, et c'est Donc, c'est une pièce qui questionne. C'est un peu post-digital, si tu veux. On commence avec la carte mère d'un ordinateur. Et comme on travaille beaucoup dans l'art numérique, pendant les années, on a une accumulation de.
Vous contribuez vous-même à la pollution numérique.
Oui. On essaie, nous souvent, on essaie de travailler avec des associations avec le recyclage des ordinateurs, parce que comme on utilise les logiciels libres et on crée notre propre logiciel, ça s'appelle Apodio, on peut donner 5 ans plus de vie sur un ordinateur, qui sont souvent changés tous les 3 ans. Mais après un certain moment, les ordinateurs de 2003, de 2004 et 2005 sont complètement obsolètes, même pour nous, même pour mes en utilisation autrement. Et donc, avec le réseau qu'on travaille avec international, on a aussi pris en compte comment le recyclage était fait sur nos ordinateurs. Donc, c'est quelque chose vraiment étonnant. On ne voit pas la carte mère en vrai quand on a les ordinateurs dans les maisons. On cache dans les choses très design. Et après, on ne voit pas où ils sont recyclés. Et on ne veut pas voir. Et quand on ne voit pas, on ne pense pas. Mais il y a souvent des communautés assez pauvres qui accueillent ces ordinateurs de Europe et qui démontent par main avec des outils de base et qui sont exposés à la toxine et la chimie qui raccourcit ces vies, en vrai. Et donc, ces questions-là, c'est assez politique et assez important pour nous, pour essayer de aussi questionner dans notre rapport artistique. Et donc, on ouvrait les boîtes de les ordinateurs, on replantait les cartes mères avec des fougères.
Donc, vous avez fait une plantation mixte?
Oui, donc cela c'est avec le fougère. Et l'idée c'est de c'est avec des différents types de plantes pendant des années de décomposer chaque élément de la carte mère, que ça retournait à la terre.
Et ça, parce qu'elle date de quand cette œuvre?
Comment?
De quand date cette œuvre?
Donc celui-là, c'est il y avait plusieurs il y avait des ordinateurs là qui datent de 2015 qu'on a préconceptualiser le projet et on a gardé, on nourrit tous les jours dans l'association. Et après,
vous arrosez vos plantes cartes mères. elles arrivent petit à petit à attaquer, à désosser
Oui, en fait, on voit petit à petit la décomposition. Celui-là, c'est tout au début. Avec une différence, ça c'est avec des différentes plantes. Mais l'idée c'est de aussi changer l'agriculture de nos cartes mères en cycle pour essayer avec des différents organismes comme le mycélium qui peut décomposer différents éléments de la carte mère. Donc c'est un projet de recherche en continu. Mais ça aussi...
Avec une dimension, c'est-à-dire c'est à la fois un détournement artistique, mais aussi de la recherche. Vous êtes vraiment sur cette question, comment recycler soi-même, enfin décomposer soi-même, effacer ses propres traces.
Oui, exactement ça. On voudrait qu'on retourne tous ces éléments-là à la terre, même le plastique. On a fait une recherche pour trouver des différents types de plantes qui peuvent aussi manger le métal. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des plantes fervivorous qui peuvent consommer le fer, le métal. Et donc, ces plantes se trouvent en Amazonie, normalement, mais ils avaient le cousin, c'est le pansé. Donc, on avait essayé aussi de planter avec des pansés juste pour commencer parce qu'on n'a pas eu la chance de balader en Amazonie encore pour replanter la carte mère. Mais ça demande beaucoup de questions aussi parce que le mouvement des plantes, ça aussi pose un problème géographique avec l'écologie de chaque pays.
Oui, c'est-à-dire que là, vous essayez aussi de faire avec les plantes locales?
Oui.
Ah oui, vous poussez la démarche vraiment pour essayer d'être cohérente.
Et donc, je peux vous montrer une vidéo qui montre comment on a retourné toutes ces décompositions en son, qui crée une sorte de réseau analogique à partir de la décomposition de la carte mère et la luminosité de l'espace. Et ce projet aussi était mis en connexion avec un projet qui s'appelle Mycelium Network Society, qui est un projet assez post-numérique aussi, qui était initié par l'artiste Shuli Cheng, qui est taïwanaise français. Elle travaille aussi beaucoup avec des artistes autour de ces questions et réunissent.
Vous aviez planté des capteurs de l'activité électrique, c'est ça?
Oui. Donc en fait c'est assez basique mais ça fonctionne dans l'installation comme un réseau des piles qui peut qui avec des différentes intensités d'acidité dans la décomposition change le son sonorisation de chaque carte mère. Donc des fois ça sonne comme une forêt avec des oiseaux. C'est vraiment intriguant. Ce n'est pas juste les sons continus, mais c'est pas...
Organique.
Naturaliste.
Merci, Jenny Piquet, pour cette présentation un peu de votre travail sur ce thème. Anaïs Rollez, justement, sur cette question de l'appropriation, on va dire des questions écologiques, de l'anthropocène, du rapport à la nature. Est-ce que là, on a deux artistes invités qui s'emparent pleinement de la question et semblent très concernés. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la création contemporaine ?
Oui, enfin, on trouve beaucoup de choses dans la création contemporaine quand on regarde, en fait. Donc oui, en effet, je pense que on peut pas ne pas voir ça, surtout les artistes. On se sent évidemment concernés, enfin, comme j'espère tout le monde. Les connaissances n'appartiennent pas à des gens dans des champs disciplinaires. Je pense que il y a des artistes qui s'intéressent à vraiment plein de domaines, mais ces domaines ne sont pas forcément non plus séparés les uns des autres. Enfin, je pense que c'est quand même une vision très, très occidentale et puis assez finalement récente, hein, le fait de faire des classifications comme ça. Donc je pense que c'est un travail d'artiste parce que ça n'a pas un usage au départ, c'est pas créé pour faire un usage, plutôt pour questionner le sens en fait, simplement de ces possibilités, de ces dispositifs là sur des pigeons. Enfin, ils sont devant nous, on ne les regarde pas, mais finalement on peut quand même les utiliser. Alors est-ce qu'on est obligé d'avoir une vision utilitaire finalement pour pouvoir s'intéresser à quelque chose? Je trouve que c'est finalement un propos artistique déjà, juste pour ça.
Sur l'art et la science, pour moi, j'ai un fort rapport avec la science, comme en fait, mes deux parents étaient scientifiques. Donc, c'est quelque chose que je vois très proche à moi. Et, ce que je vois aussi dans votre travail, l'opportunité de travailler avec les scientifiques, c'est que les artistes et les scientifiques ne sont pas hyper différents dans son approche, dans son demande de comprendre les choses, de sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde, l'univers et tout. Et c'est juste que notre approche est vraiment différente. C'est vraiment quelque chose qui bidue, qui peut changer, qui peut jouer avec, qui n'est pas forcément pour avoir une database à la fin pour être refaire exactement chaque fois. Donc, quand j'avais travaillé avec les scientifiques, ils voudraient savoir tout ce qui va se passer avant de faire l'expérimentation. Et, l'artiste, c'est plutôt l'inverse. Il va expérimenter les choses et après, peut-être demander pourquoi ça marche. Ou ne marchait pas, ou est-ce que l'accident est plus intéressant que ce qu'on attendait. Mais avec les scientifiques, c'était vraiment avant de mettre rien sur cette expérience, on va complètement annoncer tout ce qui va se passer et après on va prouver que ça va se passer ou pas. Et c'est ça la différence dans la démarche. Mais après, l'intérêt, c'est assez similaire.
Sur le rapport aussi au public, la réception, parce que là, vous avez présenté des œuvres qui sont exigeantes, parfois, en tout cas, qui demandent un peu de recul et de décryptage, qui peuvent être critiques du public qui lui-même participe ou observe ces œuvres. Est-ce que vous avez justement, comment est-ce que vous communiquez vos œuvres? Est-ce qu'elles vous semblent accessibles, peut-être davantage qu'avec d'autres médiums, parce qu'il y a cette appétence de prime abord un peu quand même pour les outils, pour la technologie elle-même. Comment est-ce que vous voyez le rapport du public à vos œuvres, ou plus largement Anaïs, sur cette question du rapport du public? Est-ce que le public des œuvres numériques ou des arts numériques est différent de celui d'autres formes d'art contemporain ou
c'est très compliqué parce que c'est le public qu'on voit. Après, ça dépend, parce que ça dépend des modes de diffusion, mais moi je connais beaucoup d'artistes qui font des actions secrètes ou privées ou discrètes justement, et je crois que, comme tu disais tout à l'heure, enfin, si on est obligé d'être ludique ou de faire plaisir aux gens pour que les gens regardent, je pense qu'à ce moment là on fait plus de l'art en fait, hein. Et c'est pas très
divertissement.
Oui, voilà. Mais sinon je peux pas vraiment répondre à cette question, elle est vraiment très 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 large, donc je vous laisse dire ce que vous pensez vous personnellement.
Moi, je veux revenir, c'est la même chose. Hein, que ce soit le côté spectaculaire, pour une part, qui peut dominer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut regarder les publics, bien évidemment. Ça peut être des micro-publics sur des zones complètement délocalisées qui ne sont même pas, qui ne se labellisent même pas, a priori, comme quelque chose qui pourrait être lieu d'art. Et il y a tout ce qui s'appelle la médiation politico-culturelle. Je dis ça, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, j'en fais, donc je sais parfaitement ce que c'est. Où on est sur des vastes publics, sur des événements culturels, effectivement, où il peut y avoir des, au niveau économique quand même, des, voilà, beaucoup d'économies, etc. Et le public ne vient pas voir de l'art, il vient se divertir, au sens strict du terme. De bord, c'est le spectacle, rester dans le spectacle, bien évidemment. Je crois que c'est ça, déjà de savoir où on se situe et qu'est-ce qu'on situe. Je crois que là où on se situe tous les trois, c'est bien évidemment, c'est comment on a des gens qui ont une certaine forme de démarche, ou même s'ils ne l'ont pas, comment on arrive à enclencher quelque chose qui est peut-être un recul, une forme d'interrogation, où on les questionne, en tout cas dans un usage, quand on voit effectivement d'un coup des circuits imprimés, des processeurs en train d'être décomposés par des végétaux, il est évident qu'on est sur la post-humanité, hein, c'est-à-dire sur quelque chose qui sera notre futur. Hein. Moi j'aime ce que fait, c'est un collectif de Aix-en-Provence, d'Ardex, qui ont repris tous les métaux qu'il y a dans les ordinateurs, qui les ont refondus et qui ont dit le futur c'est quoi, c'est des armes préhistoriques. Et ils ont refait quoi? Vraiment les armes préhistoriques. Parce que le jour où on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, ces métaux, on va les récupérer pour en faire quoi? Ben, des outils. Et j'adore leur projet, voilà. Et là, ça questionne, même si on n'est pas dans une démarche a priori questionnante, ça questionne. Voir des plantes qui poussent sur ces ordinateurs, ça questionne.
Ça, c'est quelque chose qui est souvent avec le public, qui sont choqués qu'on mette des lois sur les cartes mères. C'est ça qui rendrait un petit peu... On peut faire ça? C'est possible? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas dangereux? Donc, il y a des fois, avec des grands publics, parce qu'après, il y a des publics plus spécialisés qui sont intéressés par suivre les arts contemporains et l'art numérique. C'est intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui n'aient pas pensé de sortir une carte mère dessus, sur la boîte. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Si on ne connaît pas comment ça regarde... ou qu'est-ce qu'on peut faire avec, ou comment on peut détourner les choses.
Mais pardon, mais ça, c'est valable pour n'importe quel objet technique, finalement. Oui. Parce que je ne veux pas citer Simondon, mais voilà, du mode d'existence des objets techniques. Lui, il parle de l'automobile, je crois, à un moment. Il dit que le seul moment, peut-être, où un utilisateur de voiture va regarder comment elle fonctionne, c'est quand elle tombe en panne. En fait, il va ouvrir le capot. Mais enfin, voilà, je veux dire, c'est pas inhérent... aux technologies dites numériques.
Moi, pour venir, alors après, sur les publics, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit un prétexte, après, pour des interventions. Moi, je trouve que... voilà, moi, j'aime bien le contexte, c'est-à-dire, il y a, par exemple, une expo, il y a une œuvre, et faire des interventions auprès de publics. Alors, la plupart du temps, je demande des collèges ou des lycées, voire même des petits. J'essaie de ne pas être en école d'art, parce qu'on va s'entendre, à peu près où on va. Bon, de toute façon, on aura quelque chose, on va partager une prétention commune. Que des petits collégiens, par exemple, quand c'est sur le visage, l'usage des smartphones, et j'en viens, voilà, une histoire de l'art, vraiment, où je refais tout ce parcours, ouais, c'est où l'histoire des robots, comment ça fonctionne, et puis d'un coup, les robots qu'ils ont chez eux. Ouais, ça m'intéresse énormément d'avoir ce prétexte de faire des œuvres. C'est la phrase de Filiou, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et donc, ouais, l'œuvre comme support pour revenir à la vie concrète. Alors, est-ce que c'est ma déformation de la philosophie, avoir passé tant d'années en lire, en pratiquer et en écrire, donc la volonté d'expliquer les choses. Mais à un moment donné, je trouve ce contact à partir d'une œuvre, voilà. Moi, je sais que j'essaie de le provoquer de plus en plus et de toujours associer une intervention avec des scolaires. Ça m'intéresse énormément, qu'ils expérimentent et qu'on en parle.
Et ça fonctionne en tout cas sur l'accroche. C'est un bon médium, une bonne porte d'entrée. Vous arrivez derrière à dérouler comme ça des réflexions plus larges.
Je pense que c'est une très 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 bonne. Hein. La conférence sur le visage qui est liée à Photomaton, je sais pas, j'ai fait 60 fois, 70 fois cette conférence.
Dans
différents pays, mais surtout dans des milieux scolaires, sur les modes d'écriture et les modes de pensée. Donc j'ai toute une conférence là-dessus sur l'éphémère de l'écriture liée au numérique. Et donc cette obsolescence de la pensée longue, et donc de ce qu'a pérennisé à un moment donné la galaxie Gutenberg au sens de MacLahan. C'est impressionnant parce que les collégiens ne s'aperçoivent pas, et on va revenir sur ce que vous faites avec Apo. Moi, mes vidéos, mes premiers QuickTime.move, il n'y a plus rien pour les lire, à part que j'ai conservé, parce que j'ai rencontré déjà des historiens de la conservation du numérique. Il y a un Français qui s'appelle Alain Villemain, qui avait une chaire à l'université d'Arras, où j'enseignais, en tant que chargé de cours, et qui travaillait dessus avec des gens comme Jean-Pierre Balp depuis les années 80-90 sur la conservation des ordinateurs. Donc moi, je les ai tous conservés. J'ai toutes mes générations d'ordinateurs chez moi, empaquetés avec des anti-humidités, etc. Je les rallume pour qu'ils soient remagnétisés,
etc. Vous ne les arrosez pas ?
Non, j'ai des os. Certains, je les ai désossés quand j'ai des multiples pour voir ce que je peux en faire. Mais autrement, notre langage disparaît. Notre mémoire. Par exemple, ça, c'est quelque chose. Les gamins, d'un coup... L'économie d'attention qu'on questionne sur la mémoire, on va dire, immédiate, c'est aussi une économie de l'attention, de la rétention de la mémoire. Par exemple, de qu'est-ce que c'est une image, est-ce que je la garde ? Qu'est-ce que c'est un texte ? MySpace a disparu. Les gens qui ont perdu leur Skyblog, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont écrit quand ils étaient au collège, ils les ont perdus. Il y a ce monde, on dit, garder la conservation de la mémoire actuellement par les serveurs va être le premier pôle de consommation énergétique dans le monde d'ici peu, avec les logiques blockchain, tout le travail des IA en permanence qui viennent et qui sollicitent énormément les serveurs. Et voilà. Et ça, par exemple, ça fonctionne très très bien quand on fait une remédiation. Il y a l'œuvre. Là, c'est par exemple la colonie The Language, une de mes œuvres. Et d'un coup, je leur pose la question, qu'est-ce que c'est conserver ? Il y a un mec qui s'appelle David Gaze, un artiste, j'apprécie énormément son travail. Il avait fait, c'était Humanpedia, ça s'appelait, et il l'a lancé à l'époque à Database, un petit centre d'art que j'ai à Angoulême. Il a tiré tout Wikipédia sur papier. Vous aviez une feuille avec le mail de la personne précédente, son numéro de téléphone, tout pour la contacter, puisqu'elle a une feuille de Wikipédia. Donc le code, attention, hein, c'est pas le texte affiché, c'est le code qui est donné sous format papier. Et de l'autre côté, vous laissez vos coordonnées, et quand il redonnait le feuille à quelqu'un d'autre, etc. Et comme il avait gardé les grandes phrases de l'humanité, moi je lui ai acheté, un de ses premiers acheteurs, c'est sous aluminium, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, d'Armstrong. Et donc tout en 0-1. Ce qui veut dire qu'on le prend, il suffit de faire un prototype de première machine qui fonctionne sur du binaire, on aura le message qui sera écoutable, audible. Je trouve que cette question justement de la post-humanité, voilà, il y a David Gaze, il y en a d'autres, Chatonsky et d'autres, ouais, voilà, est au cœur. Voilà. Et si on peut faire des remédiations là-dessus, expliquer aux enfants que c'est là où nous en sommes quand même. Hein, on est quand même, c'est la première fois historiquement où on se pose la question de notre subsistance telle que nous sommes. Pas qu'on va mourir, l'humanité ne va pas mourir, mais telle que nous sommes en tout cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un tournant historique de ce qu'on appelle 30 000 ans d'histoire.
L'anthropocène, la mutation, le post-humanisme, on rejoint quelques grands enjeux. Jenny, vous souhaitiez réagir ou ajouter
J'avais pensé, quand tu parlais aussi de les grosses archives Internet, c'est qu'avec le pain de MySpace, qui sont perdus des millions de données, c'est qu'on prend le risque avec les clouds, avec les grosses propriétaires, avec Google, de mettre tous ces archives de nous-mêmes, Facebook, tout ça, parce que ces serveurs ne sont pas chez vous. C'est ailleurs et il peut avoir des fonctions, il peut avoir
des pertes de la surveillance.
Des pertes, oui, il y a la surveillance, mais il peut aussi avoir perdu partie de les tremblements de terre. On ne sait pas exactement combien des ordinateurs les grosses farms de Google, si ça tombe en panne, on va perdre beaucoup des informations chacun et les autres.
En travaillant avec ces outils, vous travaillez aussi sur la fragilité. Oui. Et en fragilité vous-même,
sur ce que vous pouvez laisser et conserver.
Bah pour nous, c'est assez important quand on travaille avec les choses informatiques, de garder les ordinateurs, de garder les choses qui peuvent utiliser les anciens logiciels. Aussi, c'est toute une autre question de l'archivage. Pour moi, on gardait toutes nos données sur un serveur chez moi. Mais après, ça c'est un risque aussi. Donc,
Pardon, cela dit, la maison peut brûler et les photos de famille aussi. Donc peut-être faut les mettre sur un cloud.
Il faut faire les deux.
Il faut multiplier,
battu. Mais après, oui.
Ou accepter l'éphémère.
C'est l'anxiety des archives.
Philippe, peut-être en conclusion.
Simplement, c'est vrai qu'il faut éviter les clouds. Bon, tous les principes, c'est super énergivore. Vous avez une clé USB ou un disque dur, quand il est débranché, il ne consomme plus rien. Et puis de l'autre côté, je crois qu'il faut avoir quand même cette éthique du vide. Il faut jeter, garder quand même l'essentiel. Voilà, je crois qu'il y a toute une éthique qui est en train de se fonder. Hein, du post-digital, dans le sens de la survie aussi, de gens qui ont envie de se retrouver, de retrouver leur temps. J'avais entendu une très belle conférence, c'était sur les Fab Labs, et la personne a commencé à parler du Fab Time, de refabriquer du temps, retrouver son temps. Donc couper ses ordinateurs, on s'est vu au téléphone, moi j'étais dans un jardin en train de lire un livre. Voilà, prendre le temps de lire, de se rencontrer, de faire des sourires, je trouve que c'est pas mal. De voir la Loire qui est en train de s'asphyxier, avec les poissons en train de crever par exemple. Les clouds ça surchauffe quand même, puisqu'on les installe maintenant au Groenland. Pourquoi le Groenland par exemple ?
Je pense qu'ils consomment le même montant de CO2 que les avions, les clouds.
Je crois qu'on est à peu près à 10% pour le moment, hein, ouais. sur le numérique, avec une progression très très forte.
Elle est exponentielle, avec le problème des intelligences artificielles. J'adore les intelligences artificielles. Ça va être le nombre de données qu'il nous faut devient exponentiel pour faire fonctionner les principes que nous voulons faire fonctionner.
Merci à tous pour votre intention. Merci Jenny Piquet, Anaïs Rollès, Philippe Boinard d'être venus partager votre regard et vos créations avec nous. Bonne soirée à tous.